VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du lundi 17 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Entretien entre le secrétaire d'État Mike Pompeo et le président sénégalais Macky Sall à Dakar. Première étape de la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine.
Au Cameroun anglophone, 22 villageois, dont 14 enfants, ont été tués selon l'ONU, alors que l'on déplore un deuxième massacre dans le village d'Ogossagou, Peul, au Mali.
Au Burundi, l'ex-chef rebelle et opposant Agathon Rwasa est le candidat du Conseil national pour la liberté à la présidentielle du 20 mai.
Le bilan du coronavirus est monté à 1770 morts en Chine. Évolution impossible à prévoir selon l'Organisation mondiale de la santé.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis feront ce qu'il faut en partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire en Afrique. C'est ce qu'a déclaré hier Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine à Dakar. Première étape de sa tournée dans trois pays africains. Le point avec Jean-Roger Bion.
Mike Pompeo, qui s'exprimait devant la presse, s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte la question d'une réduction ou non des forces combattantes américaines en Afrique, actuellement à l'examen à Washington. « Nous ferons ce qu'il faut, nous ferons ce qu'il faut collectivement, j'en suis convaincu », a répondu M. Pompeo en évoquant les partenaires sénégalais, africains, français et européens. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, à ses côtés, a lui indiqué que les États-Unis avaient fait part aux dirigeants sénégalais de leur volonté de retirer leurs forces combattantes. « Cela ne signifie pas pour nous le retrait des forces américaines dans leur totalité », a-t-il ajouté en parlant du soutien apporté par les Américains dans les domaines de la formation et du renseignement. Plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme. Elle a besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité, a dit le ministre sénégalais.
Et nous reviendrons sur la visite de M. Pompeo au Sénégal en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place, Saïdina Abagay.
Retour sur le nouveau massacre au village d'Ogossagou-Peul, au Mali, dans le cercle de Bankass, région de Mopti. 50 personnes ont été tuées, 20 portées disparues, des greniers et des animaux brûlés selon un bilan provisoire. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
De nouveau l'horreur à Ogossagou. Le vendredi 14 février dernier, en fin d'après-midi, un mouvement de panique s'est installé dans ce village du centre du Mali, où l'an dernier de nombreux villageois avaient été tués. La panique qui s'est installée la veille s'explique par le fait que le détachement de l'armée malienne sur place a décidé de plier bagages, nous confie un élu local. Les populations ont supplié les forces armées de sécurité, ajoute un autre conseiller. Les assaillants ont profité de la situation pour mener une expédition sur la localité. Un rescapé témoigne que ce sont des chasseurs traditionnels. Pour lui, certains étaient à moto et se sont d'abord postés dans un village voisin. Ils ont envoyé des éclairages dans le village de Ogossagou-Peul. Les militaires étaient déjà partis. Ils sont venus, ils ont tué, brûlé des gens. Dans la panique, des villageois se sont sauvés. En route, certains ont été tués également. Les populations n'avaient aucun moyen de défense, aucune protection. Le bilan provisoire de cette attaque est de 50 morts, une vingtaine de personnes portées disparues. Et le chef de village de conclure que les assaillants menacent de revenir à Ogossagou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Cameroun, l'ONU a annoncé hier à l'AFP que des hommes armés ont tué vendredi 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du pays. L'opposition et des ONG locales ont accusé le gouvernement et les militaires, qui combattent depuis 3 ans des groupes armés sécessionnistes anglophones, d'être responsables de cette tuerie dans le village de Ntumbo, ce qui a été démenti auprès de l'AFP par un porte-parole militaire.
Au Burundi, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné hier à Bujumbura son président Agathon Rwasa comme candidat à la présidentielle, prévue le 20 mai. Le point avec Abdourahmane Dia.
À 56 ans, Agathon Rwasa, chef historique des rebelles Hutus des Forces nationales de libération FNL, est considéré comme le principal rival du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi, issu également d'un mouvement rebelle Hutu, le CNDD-FDD. Nous sommes déjà dans une campagne électorale très dure parce que nous avons en face de nous un parti et un candidat décidés à tout mettre en œuvre pour garder le pouvoir. Mais nous sommes décidés à aller jusqu'au bout cette fois, a déclaré le représentant du CNL à l'international, Aimé Maguera. Agathon Rwasa, évincé de la tête du parti FNL fin 2010 avec la bénédiction du pouvoir, avait pris la tête d'une coalition d'indépendants, Amizeroi à Burundi, ou Espoir des Burundais, devenu la deuxième force politique à l'issue des élections contestées de 2015. Il a dû créer ensuite un nouveau parti, le CNL, pour se conformer à la nouvelle constitution de 2018 qui interdit notamment les coalitions d'indépendants. Le président Pierre Nkurunziza a décidé de ne pas se représenter.
L'ONU qualifie la situation en Libye de profondément préoccupante et avec de multiples violations du cessez-le-feu et de l'embargo sur les armes. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Malgré certains signaux positifs, la situation reste profondément préoccupante sur le terrain, a déclaré Stéphanie Williams, adjointe de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassam Salamé, lors d'une conférence de presse à Munich. La trêve ne tient qu'à un fil, avec plus de 150 violations recensées. Le peuple libyen continue de souffrir. La situation économique continue de se détériorer, exacerbée par le blocus des installations pétrolières, a-t-elle souligné. Les représentants d'une douzaine de pays soutenant l'un ou l'autre des deux camps rivaux se sont retrouvés en marge de la conférence sur la sécurité de Munich pour faire le point sur les avancées un mois après la réunion du 19 janvier à Berlin. Les principaux pays concernés par le conflit avaient alors promis de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a évoqué la prochaine reprise du dialogue politique entre les parties au conflit attendue le 26 février après 2 ans d'interruption. Depuis avril dernier, les affrontements ont causé la mort de plus de 1000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacées, selon l'ONU.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 40 Américains ont été infectés par le nouveau coronavirus à bord du paquebot Diamond Princess, qui se trouve en quarantaine au large du Japon. C'est ce qu'ont annoncé dimanche les autorités américaines. De nouveau, Abdourahmane Dia.
Ils vont être traités dans les hôpitaux au Japon, a précisé sur la chaîne CBS Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, alors que les États-Unis ont commencé à évacuer leurs ressortissants bloqués sur le navire depuis le 5 février. Au total, plus de 3700 passagers et membres d'équipage étaient à bord. Face à l'aggravation de la situation et compte tenu de doutes sur l'efficacité des mesures prises, plusieurs pays ont décidé d'évacuer leurs ressortissants paraissant sains pour les placer 14 jours en quarantaine dans leurs pays respectifs. Les États-Unis ont ainsi, dès samedi, adressé aux quelques 350 passagers américains un courrier pour leur donner cette option. Par ailleurs, le ministre japonais de la Santé, Katsunobu Okato, a averti dimanche que le Japon entrait dans une nouvelle phase de cette infection virale, le pays constatant des cas supplémentaires parmi des personnes ne s'étant pas rendues en Chine, centre de l'épidémie, et n'ayant pas eu de contact avec des visiteurs en provenance de Chine. Taïwan a enregistré dimanche son premier mort dû au coronavirus.
Le bilan des décès enregistrés en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, depuis le début de l'épidémie était lundi de 1770, avec un chiffre d'au moins 70 500 personnes contaminées. Or, en dehors de la Chine continentale, près de 600 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays, avec un premier cas signalé vendredi en Afrique, plus précisément en Égypte. Un premier décès hors d'Asie est survenu vendredi en France.
Le président américain Donald Trump a exhorté lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, la Russie a cessé de soutenir les atrocités du régime du président syrien Bachar al-Assad. Selon la Maison-Blanche, M. Trump a exprimé sa préoccupation au sujet des violences à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Soutenu par les raids aériens de leurs alliés russes, les troupes de M. Assad ont récemment intensifié leur assaut contre cette région où se trouve le dernier bastion rebelle, torture des centaines de personnes.
Des centaines d'Irakiens ont défilé dimanche en brandissant les portraits d'une figure de la contestation qu'ils voudraient voir nommé Premier ministre à la place de Mohamed Alaoui, désigné par la classe politique rejetée par le mouvement de contestation. Dans la ville sainte chiite de Kerbala, au sud de Bagdad, des dizaines d'étudiants ont tenu à bout de bras des photos d'Alaa al-Rikabi, un pharmacien devenu une figure de la contestation à Nassiriya, fer de lance de la révolte dans le sud du pays. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Emirati Pal Énergie Solaire a signé un contrat pour la construction d'une centrale solaire de 100 MW au Mali. La société veut implanter cette infrastructure dans la commune locale de Djemma, rapporte l'agence Ecofine. Elle l'exploitera pendant une durée de 25 ans et prévoit de céder sa production au réseau électrique national malien. Le projet inclut également l'implantation de lignes moyennes et haute tension afin de relier la ville de Djemma à la capitale Bamako. Ces lignes permettront le raccordement au réseau électrique de plusieurs régions comme celle de Nara, Nioro et Banamba. Le Togo devrait débloquer 23,3 millions d'euros pour rembourser une part de son emprunt obligataire islamique ce lundi, selon les informations du Fonds commun de titrisation de créances rapportées par le magazine Togo First. Le remboursement global de l'emprunt obligataire togolais est fixé pour 2026. Pour terminer, les autorités tanzaniennes ont signé un accord de prêt de 1,46 million de dollars avec Standard Bank Tanzania pour la construction d'un chemin de fer de 550 km devant relier Dar es Salaam à Matukuporo dans le centre de la Tanzanie. Une fois terminé, le réseau ferroviaire reliera aussi la Tanzanie au Burundi, au Rwanda et à la République démocratique du Congo. Le ministère tanzanien des Finances a déclaré que le prêt aura une durée de 20 ans, mais n'a donné aucun détail sur son taux d'intérêt. La plus grande partie du financement proviendra de la Suède et du Danemark.
Les sports à présent avec Emmanuel Jules Tap à Yaoundé. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2020 ce lundi à Yaoundé.
Oui, c'est ce soir à 18h GMT que la Confédération africaine de football va donner le coup d'envoi du tirage au sort. Ce sera dans l'enceinte du Palais des Sports à Yaoundé, aux côtés du directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamou, deux anciens lions indomptables du Cameroun, Stéphane Tato et Salomon Elembe ont été désignés pour répartir les 16 équipes qualifiées dans les 4 poules. Le CHAN 2020, qui en sera à sa 6e édition, se joue du 4 au 25 avril prochain. Cette compétition est dédiée au football local. Ajoutons qu'une ultime visite d'inspection des experts de la CAF a eu lieu sur les sites de Yaoundé, Douala et Limbé. Les experts se sont attardés sur les deux stades de Douala, le nouveau stade de 50 000 places à Japoma et l'enceinte réhabilitée du stade de la réunification de Bépanda.
En prélude au tirage au sort de ce lundi, la Confédération africaine de football a dévoilé hier les différents chapeaux des poules. Emmanuel.
Le Cameroun, pays organisateur, le Maroc tenant du titre, la Libye vainqueur en 2014 et la Zambie sont dans le chapeau 1. Le chapeau 2, quant à lui, est composé de la RDC, la Guinée, du Mali et du Rwanda. L'Ouganda, le Congo-Brazzaville, la Namibie et le Burkina Faso se retrouvent dans le chapeau 3. Enfin, le Zimbabwe, le Niger, le Togo et la Tanzanie sont logés dans le dernier chapeau.
Avant le début de la compétition, trois équipes d'Afrique centrale qualifiées pour le tournoi jouent en amical depuis hier.
Il s'agit du Cameroun et des deux Congos. Dimanche soir, la sélection A' du Cameroun a dominé la RDC sur le score étriqué de 1-0.
Quelques nouvelles des joueurs africains en championnat européen.
Après trois semaines d'absence, le Sénégalais Sadio Mané a signé un retour gagnant avec les Reds de Liverpool victorieux 1-0. Entré en phase de jeu, Mané a inscrit contre Norwich City son 100e but en 4 années et demie en Angleterre. Tout n'a pas été cependant rose pour les joueurs africains. Le Malien Moussa Marega, victime d'un incident raciste, a quitté le terrain lors du match entre FC Porto et Guimarães. Match remporté 2-1 par le FC Porto. L'attaquant international malien avait pourtant marqué le but de la victoire pour son équipe, mais n'a pas supporté les cris racistes dont il faisait l'objet. Il a quitté le terrain à la 71e minute de jeu. Idrissa, pour finir, les résultats de la nuit en basketball, la NBA, et hier soir, c'était le All-Star Game à Chicago.
Oui, et l'équipe de LeBron James a battu celle de Giannis Antetokounmpo par un score de 157 à 155. Et Kawhi Leonard des LA Clippers a été nommé MVP, meilleur joueur de ce match.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En visite de travail au Sénégal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est entretenu pendant le week-end avec le président Macky Sall. Il a également présidé à la signature de plusieurs accords de coopération avant d'animer un point de presse avec son homologue sénégalais Amadou Ba. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, les deux diplomates ont parlé du cadre global des relations entre le Sénégal et les États-Unis et de leur importance. Compte rendu de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Pour sa première visite en Afrique subsaharienne, le secrétaire d'État Mike Pompeo a choisi de commencer par le Sénégal. Un choix naturel et cohérent, selon lui.
Il n'y a pas un meilleur endroit pour entamer cette tournée qu'ici au Sénégal. Une démocratie dynamique, un pays culturellement et historiquement riche, les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal parmi ses plus proches partenaires sur le continent. Un autre signe de notre amitié, ce sont ces compagnies américaines qui se précipitent ici au Sénégal. Durant notre réunion, j'ai félicité le président et le ministre des Affaires étrangères pour les nouvelles découvertes de réserves énergétiques sur vos côtes. Des compagnies américaines comme Kosmos Energy et Halliburton sont là pour aider à développer ces ressources pour qu'elles profitent aux populations sénégalaises et non des intérêts étrangers.
Les États-Unis font confiance au Sénégal car le pays remplit tous les critères d'éligibilité pour les différents programmes d'appui et de coopération des États-Unis. C'est l'avis du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Amadou Ba affirme que la coopération bilatérale entre les deux pays est un modèle.
Les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal remontent à très longtemps. Le corps de la paix est là depuis 1961, voire 62 à peu près. Mais le Sénégal a bénéficié d'un second compact. Cela veut dire qu'en décidant de prendre les impôts des Américains pour aider un pays, le Sénégal a répondu à toutes les attentes des autorités américaines et cela a servi à quelque chose. Ces ressources ont été utilisées de manière transparente. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays aussi ouvert. Nous participons de manière vigoureuse au maintien de la paix un peu partout dans le monde.
La question essentielle de la sécurité a été largement abordée et si le Sénégal propose une participation de premier plan des pays africains, il souhaite également que les États-Unis ne se désengagent pas totalement dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, comme l'indique le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba.
Les États-Unis nous ont fait part effectivement de leur volonté de retirer les forces combattantes, mais cela ne signifie pas pour nous le retrait des forces américaines. Nous avons parlé des États-Unis, de la nécessité d'être présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains soient présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne.
À Dakar, le secrétaire d'État américain n'est pas venu faire que de la diplomatie. Mike Pompeo était accompagné de plusieurs chefs d'entreprise qui ont signé des accords de coopération bilatérale. Il s'agit entre autres de l'élargissement et de la modernisation du réseau électrique, de la construction d'une autoroute de 165 km qui va relier Dakar et Saint-Louis et d'un centre médical pour les patients brûlés. Il y aura également un dispositif pour permettre au Sénégal de poursuivre ses projets de développement phares dans le domaine de l'éducation, des logements, des infrastructures et des soins sanitaires. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants à la suite d'un problème de frein, selon un nouveau bilan. Ce genre d'accident de la route constitue aussi un phénomène inquiétant dans l'Est au Nord Kivu, où l'on a enregistré plus de 1850 cas en 2019. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Les bilans très élevés et les reflets de l'insécurité sur les routes de la province du Nord Kivu pour l'année passée. Mais déjà en 2020, on compte plus d'une dizaine de morts sur les routes de cette province. L'organisme spécialisé du gouvernement congolais, c'est la CNPR, la Commission nationale des préventions routières, qui a donné ces chiffres. Bienfait Manegabe est son directeur provincial.
Sur l'ensemble du territoire du Nord Kivu, nombre de morts 261, nombre de blessés graves 891, nombre de blessés légers 735. Les causes majeures des accidents sont notamment l'ivresse au volant, l'excès de vitesse, fausse manœuvre ensuite, manque de contrôle technique, mauvais état de route.
Mais comment ces conducteurs obtiennent-ils leur permis de conduire pour ceux qui en ont ? Amouli et Bahati, des noms d'emprunt pour leur sécurité, tous deux travaillent dans les transports en commun. Nous les avons rencontrés à l'arrêt bus au quartier Biréré de Goma.
J'ai eu mon premier permis à 17 ans, je n'avais même pas été testé. J'avais seulement payé 20 dollars, de même pour mon deuxième. Lors de l'achat de ce permis, on vous demande juste de rajouter 5 dollars pour ne pas passer le test. Je ne connais rien du code de la route, mais depuis 3 ans, je suis sur la route en tant que chauffeur de ce minibus.
Ah, ce qui m'énerve dans tout ça, un jour, un de mes amis motards a eu son permis 5 catégories alors qu'il ne savait même pas conduire une petite voiture. Ça m'a révolté et depuis, je n'ai jamais acheté de permis. 4 ans aujourd'hui que je conduis, bien sûr, je n'ai jamais été contrôlé par la police.
Les chefs des divisions du transport et voies de communication ici à Goma n'a pas voulu se prononcer sur la question de la fraude des permis de conduire. Mais certains habitants de Goma, indignés par la situation et surtout la multiplicité des cas d'accidents, exigent des mesures drastiques et des contrôles efficaces pour le respect du code de la route. Michel et Pierre Bandou donnent leur point de vue.
En fait, le contrôle de la route doit être beaucoup plus efficace. Nos routes ne parlent pas, parce que si nos routes parlaient, beaucoup plus d'accidents pouvaient être échappés à cause de ce langage de la route.
On m'appelle Pierre Bandou. Les contrôles techniques des véhicules seraient importants, mais aussi l'entretien routier. Les enjeux que nous avons sont toujours les enjeux, les véhicules de seconde main.
Selon toujours les statistiques de la CNPR, la Commission nationale des préventions routières, à moyenne 72 personnes meurent chaque jour sur les routes en RDC, classa alors les pays à la 6e place au niveau mondial. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Gabon, des milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour importer du riz et couvrir les besoins de la population. Pour sortir de cette dépendance alimentaire, le gouvernement soutient des initiatives privées. Notre correspondant Ismaël Obangze nous fait découvrir dans ce cadre l'expérience du projet Rizicole de Libreville.
Docteur Yonel Mukumbindea a 15 ans d'expérience dans l'étude de la filière rizicole. C'est pour amener le consommateur local à démystifier le produit importé que l'ingénieur des techniques agricoles s'est lancé dans le projet.
Longtemps, le Gabonais est resté cloisonné dans le riz parfumé, le long grain, translucide et tout. Mais nous essayons d'apporter une grande diversité pour montrer aux Gabonais qu'effectivement, il n'y a pas que ce riz-là, mais il y a d'autres riz qui peuvent ne pas être parfumés, mais qui sont aussi bons.
Depuis environ 3 ans, Dr Yonel Mukumbindea conduit une expérience pilote en banlieue de Libreville. L'objectif pour le Gabon, c'est d'atteindre l'autosuffisance en riz. Professeur Jacques-François Mavungu est directeur général de l'Institut des recherches technologiques à Libreville.
C'est un projet qui est important pour notre pays, dans la mesure où il est capable d'aider, d'accompagner la mise en œuvre de projets de grande envergure, par exemple le projet Graines, qui pourra se déployer sur le riz à travers toute l'étendue du territoire.
Le processus d'expérimentation du riz Made in Gabon se fait par partage de pépinières pour les coopératives désireuses de participer à l'aventure. Une aventure soutenue par des partenaires extérieurs à l'expertise avérée, comme nous le confirme Cédric Pambo Mapika, ingénieur agronome.
Nous avons reçu de Kafassi du Sénégal, nous avons reçu 121 lignées que nous allons tester au niveau du Gabon. Et donc sur les 121 variétés que nous avons reçues, nous allons retenir 30 qui vont passer dans un autre processus de sélection. Nous testons la résistance aux maladies, et nous allons aussi tester le rendement. Parce que c'est important, avant d'introduire un matériel, de savoir sa réponse face au stress, aux maladies, et pour savoir si elle est rentable.
Les professionnels du secteur s'engagent à suivre l'évolution de chaque récolte. Une fois qu'ils auront localisé la semence capable de résister au sol, la production sera véritablement lancée. Docteur Yonel Mukumbindea se prononce sur la politique sémencière récemment adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres.
Avec l'ordonnance sur la politique semencière, ça nous permet maintenant d'écrire au ministère de l'Agriculture, en fait, d'intégrer le processus officiellement. Parce que maintenant, il y a l'instrument qui est là, qui nous sert à nous tous, pour qu'ils viennent suivre, parce que c'est eux qui vont certifier la semence qui va sortir d'ici, avant qu'on ne lance la production de la semence de qualité.
Sur le plan environnemental, le Gabon a tout pour réussir ce challenge. Le pays dispose de 22 millions d'hectares de terres arables et il y pleut 9 mois sur 12 chaque année. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, lancé il y a environ un mois, l'Agence nationale des titres sécurisés peine à délivrer à temps, comme promis, les documents administratifs aux usagers. Les demandeurs de passeports et cartes d'identité nationale éprouvent d'énormes difficultés à accéder à ces documents. Pour en savoir davantage, notre correspondant André Kotmadjingar s'est rendu dans un centre de N'Djamena. Son reportage.
Ils nous ont demandé d'aller verser l'argent à la banque. Et tu viens, tu te mets en rang. Pour avoir même la file, tu peux passer toute une journée. Hein.
C'est le cri d'alarme des demandeurs de la carte d'identité nationale rencontrés devant l'un des centres d'enrôlement de N'Djamena. Comme lui, beaucoup d'autres sont dans la même situation. Certains quittent la maison tôt pour occuper une position plus avantageuse sur le rang constitué, mais là encore, c'était peine perdue, comme en témoignent quelques-uns.
À 2h du matin, tu viens, tu trouves plein de gens devant toi. Le problème, c'est que le travail dedans n'avance pas. Il y en a qui viennent à partir de midi pour entrer, ressortir avec le récépissé. Ils se font même filmer le même jour, alors que c'est un parcours de combattant pour quelqu'un qui veut suivre la procédure normale.
Je suis venu de loin, laisser mes enfants et maintenant j'ai fait 2 semaines.
C'est depuis 3 semaines que je suis derrière le passeport. Jusqu'à là, on ne m'a même pas filmé encore.
Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, Fouyata Mundaï, se veut rassurant. Pour lui, des démarches sont en cours pour accélérer le processus.
L'Agence nationale des titres sécurisés, dont ses installations actuelles, est une grosse machine qu'il faut lancer. Et comme tout début, on ne peut pas atteindre au premier démarrage la vitesse croisière. Le problème qui se pose en ce moment, c'est que les citoyens sont restés pendant très longtemps sans document. Et il se trouve que tout le monde veut le document au même moment. Et ça crée un peu d'embouteillage. Ça ne veut pas dire que le système il n'est pas en mesure de répondre aux attentes de la population, non loin de là.
Mais en attendant, d'autres usagers passent la nuit devant ces centres. Une stratégie qui semble être une solution pour certains.
Je suis venu ici depuis lundi passé. Hier, on est obligé de passer la nuit sous le moustique, sous la fraîcheur. On est là comme ça. On a tout expliqué. Ils ont vu comme ça. Notre cas est vraiment compliqué. Et ils ont fini par sortir maintenant les fiches.
On vient à 20h, on dort devant le commissariat et on est dans les rangs. Et puis après, on vous dit non, que vous pouvez rentrer. C'est demain que vous allez revenir. C'est comme ça que j'ai fait depuis 3 semaines.
Le directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, Fouyata Mundaï, annonce également d'autres mesures pour pallier ces difficultés.
Désormais, quand vous arrivez à la banque pour payer les frais afférents à l'établissement de titres que vous demandez, vous y trouviez directement la fiche. Et d'autre part, nous sommes en train de multiplier les services en créant de nouveaux postes. En ce moment, chaque centre que nous avons dispose de 5 postes d'enrôlement. D'ici 2-3 jours, nous en aurons 7 par centre.
Les voleurs profitent de cette occasion pour arracher les téléphones portables et de l'argent des usagers qui passent la nuit à la recherche de ces documents. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Justin Twaits. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.